RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en mer de Chine. La flotte de pêche chinoise est de loin la plus importante du monde, mais sa mission n'est pas seulement de pêcher. Pour Pékin, qui compte s'imposer comme puissance maritime, ces pêcheurs sont une pièce maîtresse. Ils occupent les avant-postes et permettent à la Chine de contrôler la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. À la recherche de poissons et d'animaux marins, dont certains sont en voie d'extinction, les pêcheurs vont de plus en plus loin. Et donc, ils ignorent volontairement le verdict international prononcé le 12 juillet dernier. L'arbitrage de la Cour permanente de La Haye avait pourtant donné raison aux Philippines, qui font aussi valoir leurs droits sur cette zone hautement stratégique. Les pêcheurs patriotes de Hainan, l'avant-poste de Pékin en mer de Chine. Un grand reportage d'Eike Schmidt sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. Cette île tropicale qui ouvre sur les eaux convoitées de la mer de Chine méridionale.
Dans le port de Tianmen, les bateaux arrivent à peine à quai que les marchands se disputent déjà les meilleurs maquereaux entassés dans des paniers en osier.
C'est la criée ici. Vous voyez les poissons là, ils les font déjà partir. Les négociants les revendront au marché de la ville de Xionghai.
Ce sont des poissons locaux, pêchés dans les eaux côtières de Tianmen.
Mais près des côtes, les chalutiers raclent les fonds marins souvent en vain, comme l'affirme cette revendeuse qui achète ses provisions ici.
Il y a de moins en moins de poissons et il y en aura sans doute encore moins à l'avenir. Ces premiers 6 mois, on n'a eu que des petits poissons. La pêche est interdite maintenant pendant 2 mois et demi. À cause de la surpêche, les stocks sont épuisés. J'ai entendu dire que la pêche sera interdite pendant 4 mois à partir de l'année prochaine.
Le compte n'y est pas pour cette commerçante penchée sur sa calculatrice. Le bénéfice est maigre, avec la pêche locale pour seul revenu. Pourtant, l'appétit des Chinois pour les fruits de mer ne cesse de croître. Ils consomment déjà un tiers de la pêche dans le monde et la Banque mondiale s'attend à une augmentation de 30% d'ici 2030. Pour satisfaire cette demande, les quelques 800 vaisseaux de Tianmen poussent de plus en plus loin, jusqu'à l'archipel des Paracels et des Spratlys, baptisés Tsisha et Nansha par les Chinois, quitte à provoquer la colère des Philippins ou encore des Vietnamiens, comme l'admet ce pêcheur.
Pêcher près de nos côtes ne pose aucun problème. Mais quand on va au-delà, les étrangers nous dégagent. Ils nous embêtent parce qu'ils ne veulent pas qu'on y pêche.
Chapeau en bambou, tressé sur la tête, bottes aux pieds, Lin Chunyan écaille un gros poisson à coups de canif. Elle est fière d'appartenir à une famille de pêcheurs de Tianmen, ces marins qui sont considérés comme des héros pour tenir tête aux gardes-côtes des pays voisins.
Les pêcheurs de ma famille partent régulièrement pour 2 mois vers les récifs de Nansha. Notre gouvernement les encourage à y aller. En réalité, c'est pour qu'ils défendent les eaux territoriales. Les pêcheurs de Tianmen vont là-bas depuis des générations. Le président Xi Jinping en personne est venu nous soutenir.
Le visage de Chunyan s'illumine lorsqu'elle se souvient de ce jour en avril 2013.
Oh là là, la visite du président était splendide. Nous l'avons accueilli chaleureusement. Il disait qu'il fallait faire attention à notre sécurité. J'étais fière que l'empereur soit venu jusqu'ici. Il nous a encouragés. J'étais très excitée.
Comme dans cette opéra populaire, les pêcheurs ont offert un douli à Xi Jinping, le chapeau traditionnel en bambou. Une affiche géante plantée au beau milieu du carrefour principal de cette ville de 30 000 habitants a immortalisé le moment. La photo présente le président chinois entouré de pêcheurs, tout sourire, voué à la défense de la patrie. De bons patriotes qui font flotter le drapeau chinois sur la mer de Chine, comme Li Linsun, qui nous invite à monter à bord du vaisseau Tianghai 09045, rendu célèbre par la visite du président Xi Jinping.
Il est monté à bord. Vous voyez ces quatre grands bateaux-là? C'est lui qui nous les a offerts. Il a remercié les pêcheurs et il nous a demandé d'aller jusqu'à Nansha pour faire honneur à notre patrie. Nous sommes les défenseurs de la souveraineté maritime. Il nous a dit de naviguer sans crainte dans les eaux disputées.
Le Tianghai 09045, Xi Jinping ne l'a pas choisi au hasard. C'est un bateau de la milice maritime, une organisation paramilitaire entraînée par l'armée. Lin Yongqin, chercheur à l'Institut d'études sur la mer de Chine méridionale.
Dans la province de Henan, on a beaucoup de miliciens réservistes. Nous améliorons aussi la capacité de défense de notre marine. Il y a eu des confrontations, on a tiré sur nos pêcheurs. Ils ont besoin du gouvernement pour les protéger. Les bateaux en bois sont trop vulnérables. Le gouvernement les incite donc à s'équiper de bateaux à coque d'acier, plus solides, pour résister aux intempéries, mais aussi en cas d'attaque par les Philippins.
Des bateaux fort utiles aussi pour aider la marine à construire ce que les Américains appellent la Grande Muraille de Sable. Des atolls et des récifs transformés en pistes d'atterrissage et ports militaires. Lin Yongqin.
Les pêcheurs jouent un rôle important dans le remblayage des récifs. Pendant la période où la pêche est interdite, c'est une source supplémentaire de revenus pour eux. Ça leur permet de nourrir leur famille.
Depuis 2014, une cinquantaine de bateaux en bois ont été transformés en vaisseaux à coque d'acier. Une trentaine de navires de 500 tonnes sont en cours de construction ou déjà livrés avec l'aide de l'État. Ces subventions, les pêcheurs ne les évoquent que du bout des lèvres. À l'écart de ses camarades marins, Li Linsun se lance, accroupi sur le bord en bois de son chalutier, cigarette au bec.
Les pêcheurs continuent d'aller là-bas. Par exemple, ce genre de vaisseau, s'il y va, son propriétaire touchera une subvention dans les 1500 euros par mois. S'il y reste 2 mois, il peut y gagner gros. Qu'on y pêche ou pas, on touche la subvention pourvu qu'on soit présent sur cette zone. La Chine dispose d'assez d'argent et elle n'a peur d'aucun autre pays.
Pour aller au Scarborough Shoal, ce récif que Pékin appelle Huangyan et se dispute avec Manille, un bateau de 500 tonnes peut toucher 10 000 euros pour le premier voyage et 5 000 euros pour chaque sortie par la suite. Aujourd'hui, avec ses 61 ans, Li Linsun préfère lancer sa canne à pêche dans les eaux calmes du port. Mais dans le passé, le pêcheur a risqué gros pour trouver les trésors des fonds marins.
J'avais une trentaine d'années lorsque les Philippins m'ont arrêté et emprisonné pendant 2 ans. Les conditions de détention ont été extrêmement dures. Je n'ai eu que des feuilles de bananier à manger. J'étais allé dans les eaux philippines pour prendre des tortues de mer. On pouvait gagner des millions de yuan en un seul voyage.
Les pêcheurs convoitent bien sûr les poissons, mais aussi des animaux menacés d'extinction, comme le bénitier géant. Le shetu, l'ivoire des mers, rapporte des fortunes. Tanmen est la capitale du bénitier géant, le plus grand coquillage du monde. D'innombrables ateliers les transforment en sculptures et colliers luisants. Derrière l'atelier de Madame Hu, des centaines de bénitiers s'entassent jusqu'à 2 mètres de hauteur.
Ces bénitiers géants viennent de Nansha, de Xisha et de Huangyan, mais il n'y en a presque plus. Le gouvernement a interdit de les pêcher. Nous pouvons juste vendre nos stocks. Les plus précieux, qui coûtent le plus cher, sont les bénitiers de Huangyan. Les Chinois les collectent.
Les bénitiers de Huangyan, ou Scarborough Shoal, ont déjà fait rêver le père et le grand-père de Lin Feng, 71 ans. L'homme trapu à la peau tannée et aux biceps musclés nous ouvre le hangar qui lui sert de salon. Dehors, un rideau de pluie inonde les rues et signe la fin du typhon. À l'intérieur, sous un portrait de Mao, Lin Feng se souvient de toutes les tempêtes qu'il a dû affronter dans sa longue vie de pêcheur.
« 48, 49, J'avais 18 ans lorsque j'ai pris la mer. Nous avons navigué très loin. Il fallait préparer des céréales pour 2 mois. Et lorsque les réservoirs d'eau potable étaient vides, nous devions récolter l'eau de pluie. En une semaine, les cales étaient pleines. Des escargots de mer, des crabes et crevettes, des poissons, il y avait de tout. La plupart des bateaux venaient de Tan Men. Pour les Vietnamiens, avec leurs bateaux en bambou, c'était trop loin.
Les seuls qui forçaient le respect des pêcheurs de Tan Men étaient les Philippins.
Dans les années 70 et 90, les Philippins étaient des porte-flingues. Ils étaient pauvres et nous rançonnaient. Ils voulaient nos bidons d'eau, nos chaussures, nos vêtements, nos lampes. On ne voulait pas les laisser monter à bord car ils étaient armés de fusils. Ils ont tué 100 de pêcheurs de Tan Men à Nan Sha.
Les pêcheurs de Tan Men, toujours en première ligne sur le front maritime. En 2012, 8 marins ont défié un navire de guerre philippin au Scarborough Shoal, permettant à la Chine de prendre contrôle du récif. En 2014, Chinois et Vietnamiens se sont affrontés autour d'une plateforme de pétrole avec toujours les marins de Tan Men en première ligne. Mais depuis que Pékin se porte garant de la sécurité de ses pêcheurs, Lin Feng est rassuré.
Il n'y a plus aucun souci. Les Philippins n'osent plus nous agresser. S'il y a le moindre incident, les pêcheurs appellent les gardes-côtes qui arrivent immédiatement à Sisha et Nan Sha. Les Philippins sont sous-équipés et notre flotte surveille la zone pour protéger la pêche chinoise.
Au restaurant de fruits de mer, Ba Fang, les clients se régalent de crevettes, de crabes et de poulpes croustillants sous une carte qui couvre tout le mur. Elle indique que le territoire chinois s'étend jusqu'aux portes du Vietnam, des Philippines, de Taïwan et de la Malaisie. Mais comment prouver que ces eaux convoitées par au moins 5 autres pays appartiennent à la Chine ? Alors le chercheur Lin Yongqin fait valoir que déjà au XIVe siècle, les premiers marins de Tan Men partaient vers les Paracels et les Spratlys.
Depuis les dynasties des Ming et des Qing, les pêcheurs chinois pêchent dans la mer de Chine méridionale. Dans leur Genglubu, leur journal de bord, ils marquent les routes sur lesquelles ils naviguaient et les distances entre les récifs. D'autres pays ne possèdent pas une telle preuve historique.
Le Genglubu, ce journal de bord vieux de 600 ans, une preuve irréfutable pour la présence chinoise. Le capitaine Sun Chenfang, 81 ans, serait l'un des rares à posséder un tel journal ancestral, rapporte la presse d'État. Mais surprise, lorsque nous arrivons chez lui dans le village de Cao Tang, le vieux marin s'avère tout sauf bavard.
Si vous voulez écouter mes histoires ou voir le Genglubu, il faut qu'un cadre du parti vous accompagne. Sinon, je ne vous montre pas mon journal de bord. Si je vous raconte tout ça sans autorisation, ils vont m'arrêter. Et alors, comment vous me protégerez à ce moment-là ?
Après 1 heure passée au commissariat et à la mairie pour obtenir une permission, nous retournons chez Sun Chenfang. Nouvelle surprise, le vieux capitaine n'est plus là. La soi-disant preuve que la mer de Chine appartient depuis 600 ans à l'Empire du Milieu, nous ne la verrons pas. Mais si le mystérieux Genglubu existe, alors il trouvera sans doute sa place au futur musée qui surplombera le port de Tan Men, nous assure le pêcheur Li Lin Sun.
Ils construisent le musée national de la mer de Chine méridionale là-bas. Les coquillages, les tortues, tout y sera exposé. C'est le souhait du président. Ce sera un énorme musée, 30 000 mètres carrés. Vous voyez le slogan là-bas sur les échafaudages ? Travaillez dur et faites un effort pour finir l'édifice en 90 jours.
Pékin ne badine pas avec les moyens pour démontrer sa nouvelle force maritime. Pour le constater, il suffit de se rendre dans le port flambant neuf de Sanya, à 3 heures de route de Tan Men. En face d'un centre logistique ultramoderne, 10 de vaisseaux importants sont amarrés à quai. Les filets et les guirlandes d'ampoules pour la pêche nocturne sont bien là, mais l'équipage, qui soudain descend du bateau, habillé en treillis militaire et l'air hostile, ne ressemble en rien à des pêcheurs.
Donc on n'a pas le droit d'être ici.
S'agit-il de navires de la marine ou de la milice camouflés en bateau de pêche? Un bateau qui a observé la scène nous glisse ces quelques mots.
Ces bateaux sont là pour protéger les eaux territoriales. Ils ne servent pas à la pêche, ils appartiennent à l'État. En cas d'affrontement, ils protégeront les pêcheurs et défendront notre souveraineté.
À l'entrée du port, quelques ouvriers, le torse nu, attendent le retour des vaisseaux pour décharger la pêche du jour. Autour d'une soupe aux poissons et quelques gorgées de l'alcool de riz baijiu, les langues se délient.
Je ne crains ni la houle ni le typhon, mais j'ai peur des Philippins. Ils agressent la Chine. Je sens qu'il y a une guerre dans l'air. Nous avons besoin de la paix, mais s'il y a la guerre, la Chine n'aura pas peur. La Chine est forte.
Des propos en droite ligne avec ceux du ministre de la Défense. Selon Chang Wangchuan, Pékin doit se préparer pour une guerre populaire en mer de Chine. Les pêcheurs, eux, sont déjà mobilisés. Les pêcheurs patriotes de Hainan, l'avant-poste de Pékin en mer de Chine. Un grand reportage de Heike Schmidt et de Hanno Wu, réalisation Souel Kedia.
Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Charlotte.
Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013, la tension en mer de Chine ne cesse de monter.
Pékin montre en effet sans complexe ses muscles face à ses petits voisins, aux grandes dames d'ailleurs des États-Unis. Face à cette Chine expansionniste, Washington fait valoir la liberté de navigation. Il faut savoir qu'un tiers du trafic maritime passe par cette route et que ses eaux recèlent potentiellement de pétrole. D'où d'ailleurs cette rivalité des pays pour contrôler la mer de Chine méridionale.
Et pour ne rien arranger, que les Américains ont du fil à retordre avec le nouveau président des Philippines, Rodrigo Duterte, qui menace de réorienter sa diplomatie vers Pékin.
Les Américains comptaient en effet sur Manille pour contrer les prétentions chinoises. Ces jours-ci, des manœuvres conjointes sont d'ailleurs en cours comme chaque année, mais elles seront les premières et les dernières de son mandat, a averti le nouveau président philippin. Tout cela plaît bien sûr à Pékin. L'ambassadeur chinois aux Philippines ne tarit pas d'éloges. Les nuages se dispersent, s'est réjoui Zhao Tianhu. Il y a quelques jours, un soleil radieux brillera sur nos relations, dit-il. Alors la semaine prochaine, Rodrigo Duterte veut venir à Pékin. Pour l'instant, la Chine n'a pas encore confirmé cette visite, mais la tension est déjà nettement retombée depuis le 12 juillet dernier, jour où Manille avait gagné son procès contre la Chine et provoqué la colère de Pékin.
Oui, la Cour permanente d'arbitrage de la Haye a en effet estimé que la Chine revendique à tort la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale.
Oui, mais pour Pékin, ce verdict n'est qu'un bout de papier à jeter à la poubelle. La dernière preuve en date de la détermination chinoise, c'est d'ailleurs le nouveau port construit sur l'île de Hainan à Sanya pour un coût total de 400 millions d'euros. Il vient d'ouvrir et peut déjà accueillir 800 bateaux. Une fois qu'il sera terminé, 2000 vaisseaux pourront y accoster. Alors, selon un expert américain de la défense, ce port servira de base aux milices maritimes. Impossible d'ailleurs pour nous de nous rapprocher de ces bateaux. Les équipages nous ont tout de suite interceptés sur le quai et forcés à partir. D'ailleurs, la plupart des interviews dans ce reportage ont été enregistrées avec un micro caché, justement pour ne pas éveiller la méfiance des pêcheurs miliciens.
Les pêcheurs patriotes de Hainan, l'avant-poste de Pékin en mer de Chine. Votre grand reportage, Heike Schmidt, à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.